les grandes énigmes de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous accueillons sur RCF le père Philippe Blais. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons la grande joie de vous accueillir pour un livre qui s'appelle « Les grandes énigmes d'Apocalypse, la clé des symboles » et vous nous amenez dans un long voyage auprès de Saint Jean pour contempler avec lui cette espèce de grand combat spirituel mais qui ouvre une porte à l'espérance. Père Philippe Blais, vous êtes prêtre passionniste et des Girondins doivent vous connaître parce que vous avez été au sanctuaire Notre-Dame de Verdelais et vous êtes actuellement recteur dans un sanctuaire marial à Notre-Dame-du-Croc dans l'Aude. Et vous y menez une activité de prédication et de direction spirituelle. Alors vous avez déjà à votre actif plusieurs ouvrages sur Saint Paul de la Croix, directeur spirituel, Saint Jean déjà, le livre des sept secrets, et prier 15 jours avec Saint Paul de la Croix. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Saint Jean. Alors est-ce que je peux vous demander en préambule, avant toute chose, Saint Jean pour vous, qui est-ce ?
Saint Jean, c'est le saint patron des contemplatifs. Parmi les quatre évangélistes, c'est celui qui nous introduit vraiment dans le mystère, qui a une vision théologique, celui qui écrit après tous les autres, qui ne se contente pas de formuler une lecture des événements, mais qui nous donne le sens des événements et la clé des événements. C'est le théologien, comme on l'appelait dans l'Antiquité, Jean le théologien.
Alors, ce Jean le théologien, vous le fréquentez depuis longtemps et vous nous offrez avec les grandes énigmes de l'Apocalypse un commentaire très fourni de l'ensemble du texte que vous nous donnez à entendre, à découvrir et à comprendre. Alors j'aimerais, si vous voulez, dans un premier temps, peut-être que l'on revienne sur ce texte, à la fois sa nature et la façon dont vous avez voulu le travailler.
Il existe beaucoup de lectures qui sont historiques, c'est-à-dire événementielles. On comprend l'histoire d'ordinaire, eh bien, avec les événements, qu'ils soient politiques, culturels, économiques, avec les personnes, les influences psychologiques qui peuvent influer. Mais dans un texte comme celui que Jean nous transmet, c'est vraiment, il faut le regarder théologiquement. Il ne nous transmet pas des événements. Beaucoup de commentateurs qui ont utilisé, qui utilisent encore aujourd'hui la prophétie de Jean pour parler de la fin du monde, par exemple, eh bien, le lisent eux aussi, à leur manière, comme un récit événementiel qui nous parle d'événements précis. Tandis que dans la perspective de Jean, dans laquelle j'ai voulu vraiment entrer de plein pied, ce qui est celle du mystère, eh bien, Jean ne nous narre pas des événements, il nous narre le sens spirituel, le sens des événements relus dans la foi. Et c'est ça la lecture théologique à laquelle il nous convie.
Et c'est ce que vous avez choisi de faire tout au long de ce livre.
Exactement. Et il a utilisé des symboles qui sont dans l'Ancien Testament, mais aussi des symboles qu'il a forgés, qu'il a retravaillés, reforgés, auxquels il a donné un nouveau sens. C'était pas un code secret spécialement pour parler d'événements que tout le monde connaissait à son époque. Il a voulu aller plus loin. Dans les évangiles synoptiques, Jésus parle par parabole. Et bien là, Saint Jean, lui-même, dans son évangile, et dans l'Apocalypse davantage encore, a remplacé la parabole par le symbole. Le symbole oblige à s'arrêter. On ne peut pas lire en transparence le symbole. Et c'est volontaire de la part de Jean. Il nous oblige à nous arrêter devant le texte, à le méditer longuement, à le manduquer, à le digérer.
Alors on a besoin, pour pouvoir méditer ce texte, le contempler, et à travers le texte on contemple bien sûr le Seigneur, on a besoin de guide, et vous vous offrez dans le fond comme un guide pour ce grand parcours dans l'Apocalypse. Alors vous rappelez au début de l'ouvrage, le guide s'efface devant la promenade qu'il propose toujours, s'il donne à contempler. Vous rappelez au début de l'ouvrage, en quelque sorte, le parcours du texte. Est-ce que vous pouvez y revenir ? Parce que vous évoquez ces fameux septenaires. Alors il faut oser ce premier mot peut-être.
Voilà, septenaire, c'est un ensemble cohérent constitué de sept éléments. Mais qui forment vraiment un ensemble, et on ne peut pas enlever un élément, sinon on détruit la cohésion de la totalité. L'Apocalypse est construite et structurée sur quatre septenaires qui se suivent. Le premier septenaire, c'est les lettres aux sept églises, parce que Saint Jean ne veut pas nous parler d'une histoire profane. Il nous parle en tant que croyant et il veut vraiment ouvrir la perspective de l'auditeur ou du lecteur au sens de la foi. lire les événements, mais à la lumière de la foi. Donc tout commence avec l'Église. Et d'ailleurs, le texte s'achève aussi sur l'Église. Au début, c'est des fiançailles, à la fin, c'est les noces.
C'est les noces.
Mmh. Et c'est très beau pour ça. Et au milieu de cet encadrement ecclésial, il y a les événements eux-mêmes. Les lettres aux sept églises nous donnent, au début des événements, ils nous donnent l'état de l'Église, son état spirituel. C'est-à-dire, on a en sept petites églises, communautés qui sont symboliques, on a une église qui est au centre, visuellement, on en met une au centre, avec le Christ. Ouais,
l'église d'Éphèse, là.
L'église d'Éphèse, exactement.
La promotée de la foi. Mmh.
Et les autres autour, et qui vont deux par deux sur un cercle, diamétralement associés, pas opposés, mais associés au contraire. Et ça fait trois types d'églises. Des églises pures mais persécutées, qui sont considérées comme étant trop... pas assez inscrites dans le monde. Des églises en état de compromis, parce que à la fois elles sont fidèles, mais en même temps elles acceptent théologiquement, doctrinalement, des éléments qui viennent du monde, dit Jean, et qui ne sont pas, qui risquent de détériorer la foi. Et le Christ leur en fait le reproche. Et ensuite, il y a deux églises qui sont en état de compromis pur et simple, et leur état spirituel est très grave. Donc on voit bien là la situation générale de l'Église. Il y a le bien, mais il y a aussi le mal, il y a le combat spirituel, et c'est tout le thème du livre de l'Apocalypse. L'autre septénaire qui suit va nous donner, c'est celui des sceaux, les sept sceaux. Alors, on a tous entendu parler
de l'agneau et des sept sceaux. On le voit parfois sur les portes des tabernacles dans les églises, dans les églises paroissiales, on a souvent cette figure de l'agneau et des sept sceaux.
Exactement, un livre avec sept sceaux et l'agneau dessus. Ce ne sont pas encore des fléaux. Ça nous donne, maintenant qu'on a vu l'état de l'Église, au moment du début des événements, on a une photographie, en quelque sorte, de l'état du monde, spirituellement parlant, de ceux qui ne croient pas, de ceux qui ne sont pas dans l'Église. Pour dire, Jean nous dit ainsi, comme tout au long de sa prophétie, que la neutralité n'existe pas. C'est-à-dire, on est tous issus du Créateur. Et donc, quelle que soit notre position, ou nos choix ou nos non-choix, parce que toute l'Apocalypse va consister à obliger les gens à choisir.
À se situer.
Et c'est ce que nous dit Jean, et c'est le sens de la vie en général, de toute façon. Il y a l'état spirituel du monde. Il n'est pas opposé à Dieu, il ne rejette pas Dieu, il ne l'accueille pas non plus. C'est ce que les sceaux nous disent. Les sceaux sont réputés aussi pour les fameux quatre cavaliers. Les quatre cavaliers, on nous les décrit toujours comme des fléaux, mais ce ne sont pas des fléaux en réalité. Il faut imaginer un médecin qui palpe le corps d'un malade et il appuie là où ça fait mal.
Vous le dites bien, oui.
Le cheval, c'est ce que rien n'arrête. C'est une action qui est déclenchée par Dieu, un discernement. Et ce discernement, ira à la fin. Et Dieu appuie sur, c'est le second cavalier, sur la violence de l'humanité. Il va appuyer ensuite sur sa carence spirituelle, c'est le troisième cavalier. Et il va appuyer ensuite sur l'état où ça mène la mort spirituelle. Donc voilà les sceaux. Les sceaux, c'est le début, c'est le signal. Mais en même temps, c'est pas encore les fléaux en tant que tels, c'est pas le combat spirituel, c'est encore un diagnostic. Le combat, l'action apocalyptique, proprement dite, commence avec le septénaire suivant. Et le septénaire suivant, c'est celui des trompettes. Les trompettes, ça se fait entendre de loin. Convoque. Et donc, au long des trompettes, alors là, on assiste à des fléaux qu'il faut décrypter.
Vous nous faites entrer dans un grand voyage là aussi, sur les trompettes. Alors allez-y, je sais pas vous. Mais je pense là aussi pour les auditeurs d'RCF que parfois dans les églises, des fresques, je pense à une fresque d'une église au Pays Basque où c'est justement une parousie, une venue de Jésus en gloire, on voit les anges avec des trompettes.
Ah,
ces trompettes de la renommée qui annoncent la venue. Mais alors cette trompette-là, c'est pas tout à fait ça.
Si, mais c'est vécu dans une mise en crise des valeurs religieuses idolâtriques. C'est-à-dire que ce qui est frappé par le fléau, c'est pas les éléments de la nature. Vous voyez, on voit un feu qui ravage la végétation, ou bien un astre qui empoisonne les eaux ou les transforme en sang. Ce sont des images. Ces images nous parlent d'une réalité spirituelle. Et la réalité spirituelle, c'est pas Dieu qui empoisonne sa création, qui la détruit. Ce que Dieu va détruire, c'est les certitudes idolâtriques des hommes. Donc, et les trompettes, c'est ça. Ensuite, il y a le dernier septénaire, ce sont les coupes.
On se retrouve dans un instant pour le dernier septénaire. Avec nous aujourd'hui, le père Philippe Plé pour les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles. Père Philippe Plé, à l'instant, vous nous expliquiez, enfin vous nous aidiez à entrer dans le texte de l'Apocalypse en évoquant les septénaires, celui
des trompettes. Et le dernier septénaire, c'est celui des coupes.
Des coupes, voilà. Et qui sont, vous dites dans l'ouvrage, on peut penser que ce sont les mêmes, parce qu'il y a un parallélisme, mais s'il y a parallélisme, ça ne veut pas dire forcément identité.
Exactement. Ces deux septénaires se suivent, mais ils sont entrecoupés de longs épisodes dont il faudrait reparler ultérieurement. C'est les grandes figures, ce que j'appelle comme ça, sous ce titre-là.
Et on aura l'opportunité de le faire dans une prochaine émission.
Ah, je vous en remercie. Et ces deux septénaires se ressemblent, vraiment on peut les mettre en parallèle, parce chaque fléau se caractérise par le lieu où il advient. Donc ça, c'est la terre, c'est la mer, c'est les fleuves, c'est les sources. Et à chaque fois, le parallèle est parfaitement respecté. Mais le contenu n'est pas tout à fait le même, parce qu'il y a une évolution entre les deux. Alors la trompette, c'est ce qui convoque. Ça symbolise le jugement de Dieu. Donc on imagine un juge qui formule sa sentence. Et le second temps du jugement, c'est l'exécution. Et donc les coupes... Le fléau des coupes, qui reprend et qui est bien parallèle à celui des trompettes, elle constitue l'exécution du jugement énoncé par les trompettes. Le jugement, ce n'est pas une condamnation comme on pourrait l'imaginer, ce sont des avertissements. Jusqu'au bout, la possibilité et la nécessité d'ailleurs de la conversion est requise, même pendant la sentence. Et qu'est-ce que la sentence d'ailleurs ? C'est pas, on n'est pas dans l'autre vie, on est toujours sur la terre. Et c'est pas le monde matériel qui est frappé, c'est toujours ce sur quoi les hommes ont mis leur espérance. Par exemple, tous ceux qui ont mis leur espérance dans une vie facile, dans l'hédonisme, dans la jouissance, eh bien les voilà, pour une raison ou une autre, eh bien cette idole-là, elle est frappée. Ça ne leur apporte plus la confiance, de même ceux qui mettaient leur confiance dans l'argent, ceux qui mettaient leur confiance dans la séduction, dans le pouvoir, que sais-je moi, toutes les formes d'idoles qui existent, eh bien ce sont elles qui sont mises en crise les unes après les autres. Et les hommes, ceux qui refusent de se convertir, nous dit Jean, eh bien regimbent, se plaignent et prononcent des blasphèmes contre Dieu. Mais pourquoi ? Parce que le paradis qu'ils avaient voulu vivre ici-bas, eh bien il est impossible de le vivre. Et est-ce une cruauté de la part de Dieu ? C'est ce qui advient alors là à la fin de l'Apocalypse, où on a la dernière bataille, Armageddon, c'est-à-dire le dragon, le diable, convoque tous ceux qui veulent vivre son idéal de refus de Dieu et de vivre un paradis sur la terre. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre éternellement sur la terre. Et donc il y a cette révolte sans issue. C'est d'où le sens de la défaite. Voilà, ensuite l'Apocalypse s'achève sur la victoire de Dieu. En quoi elle va consister ? C'est pas encore la fin de l'histoire humaine. On a mille ans, le fameux millénium dont on parle souvent.
Et vous en expliquez bien d'ailleurs là-dessus, pour éviter l'erreur millénariste, c'est-à-dire d'enfermer cela dans une perspective qui serait quasi historique.
Immanente, immanente, à nouveau, toujours immanente. Voilà. On voudrait refaire le paradis sur Terre, et c'est vrai qu'à toutes les époques, eh bien, il y a eu des mouvements millénaristes qui ont voulu mettre autour d'une ville ou d'une nation la Jérusalem étonnante, la Jérusalem nouvelle qui convertirait le monde entier, qui serait le symbole du paradis terrestre. Et pas seulement le symbole, mais sa réalité tangible. Or, à chaque fois, et le Seigneur nous montre bien, ces mouvements qui commençaient pacifiquement sont tournés
dans la violence. Dans la violence. Ouais, vous le dites bien.
Et ça, c'est le grand paradoxe de l'utopie. L'utopie, c'est l'homme qui se sépare de Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. C'est ce que Dieu nous dit toujours. Et l'Apocalypse, c'est ça. C'est une dénonciation de toutes ces idoles, ces déviations sur lesquelles on voudrait fonder une confiance, une espérance, et on ne peut pas la fonder. Et Dieu nous montre la véritable espérance. Et la Jérusalem nouvelle ne gouverne pas le monde. Elle rayonne la lumière de la vérité dans le monde. Vous voyez la différence ? Elle propose, comme le fait l'Église à toutes les époques d'ailleurs, l'enseignement de la vérité sans l'imposer, sans jamais l'imposer. Toutes les tendances millénaristes, eh bien, c'est l'opposé. C'est vouloir imposer la vérité. C'est le fanatisme religieux en général. Et sache, à l'issue des 1000 ans, encore le dragon revient une dernière fois et il est vaincu définitivement cette fois-ci. Et le texte, c'est le dernier chapitre, s'ouvre sur la vie éternelle, sur le jardin d'Éden, mais le vrai, celui-là, celui qui se trouve au ciel.
Et vous dites, Père Philippe Play, l'éternité est plus forte que le passager. L'Apocalypse nous offre la merveilleuse opportunité de renouveler notre regard sur les êtres et sur les choses. C'est à ce prix seulement que la terre pourra devenir ce monde meilleur dont rêvent tous les hommes de bonne volonté. Saurons-nous nous laisser transfigurer? Voilà. Et celui qui nous transfigure, c'est celui que Jean de Patmos a tant de fois contemplé. Puisque vous dites « je vis ». Et que vous dites, c'est une vision prophétique et aussi une vision extatique, c'est-à-dire mystique.
Voilà, il reçoit. Il ne pense pas ce texte qu'il nous donne, ce n'est pas un penseur, c'est vraiment un contemplatif qui transmet ce qu'il a vu.
Alors ce texte, il est d'une modernité très réelle.
Très réel, parce qu'il nous parle, mais non pas au sens des événements.
Oui, vous l'avez bien dit en début d'émission, mais c'est peut-être bien de nous le redire en fin d'émission.
Il est très réel pour fonder notre espérance. Le Saint Jean nous rappelle que la vie est un combat au sens de la foi. L'utopie, ça consiste à croire, et c'est ça le millénarisme en fait, ça consiste à croire qu'il suffit de paraître là et de montrer son évangile pour que tout le monde nous applaudisse, que tout le monde partage nos idées, que le monde devienne beau. Il suffit d'expliquer, parce que c'est l'utopie rousseauiste, vous savez, l'homme naturellement bon. Eh bien non, Jean nous dit, l'homme est blessé. Et donc il doit, pour redécouvrir la vérité, pour pouvoir être sauvé, accéder au salut, il doit affronter les ténèbres. Il doit être capable d'avoir une espérance plus forte que celle qu'offre le monde. Et les espérances que le monde nous offre sont passagères. Tandis que celles que Dieu nous propose, c'est celle de la vérité de l'amour et elles sont éternelles.
Elles durent. Et Babylone en est la figure de cette résistance.
Ah, tout à fait. Babylone, c'est l'icône de la contre-espérance, de cette, l'espérance terrestre que le monde propose en alternative à celle de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'espérance que Babylone incarne? Le texte de Jean nous le montre, il la contemple d'ailleurs. L'ange le prend avec lui et l'entraîne au désert. Désert, c'est un lieu de contemplation. Et on est très étonné que ce soit au désert
qu'ils doivent la contempler.
Parce qu'il doit regarder un mystère qui n'est pas profane, qui est justement le mystère de la foi. Babylone est un mystère de la foi négatif. Ténébreux, il est vrai, mais un mystère de la foi que nous devons contempler en tant que croyants et même en tant qu'hommes, tout simplement, si nous voulons nous tourner dans cette dimension de notre destin. Et qu'est-ce qu'elle est, Babylone? C'est une cité commerçante, une cité qui prône l'hédonisme, qui le fournit, une cité qui est une sorte de réseau qui contrôle, qui chapeaute toutes les nations, toutes les villes de la terre. C'est vraiment une espèce de vaste réseau, vous voyez. C'est pas une ville en tant que telle, une capitale comme l'était Rome dans l'Antiquité. C'est beaucoup plus que ça. C'est un état d'esprit. On appelle ça des réseaux aujourd'hui. C'est très adapté.
Tout à fait.
Et Babylone, elle veut que les hommes trouvent dans sa construction, c'est Babel dans l'Ancien Testament.
Voilà, ça reprend Babel, tout à fait. Vous le dites aussi dans l'ouvrage.
La construction de ce monde-là, de cette espérance-là. Or, Saint Jean la dénonce en disant mais que parmi toutes les richesses qui affluent à Babylone, les dernières qui soient mentionnées, c'est l'esclavage humain. Et sous deux termes, vous voyez, il y a le corps d'abord, les hommes esclaves au niveau de, en tant que corps, et en tant qu'esprit, le second. Et bien donc, que ce soit dans notre corps ou dans notre âme, à Babylone, nous sommes des esclaves, et c'est cette libération que Dieu nous propose.
Voilà, belle libération que que Jean nous donne à découvrir peu à peu à travers tout cet itinéraire dans l'Apocalypse. Alors donc, je recommande vraiment cet ouvrage à nos auditeurs en leur disant, dans le fond, qu'ils peuvent passer une année avec vous et avec saint Jean, puisque cet ouvrage, Les grandes énigmes de l'Apocalypse, se compose de 10 chapitres, et je pense qu'on peut passer un mois avec le chapitre, puisque chaque chapitre comporte le texte de l'Apocalypse. Et texte que vous avez, en fait, vous appuyez sur la traduction du Père aussi, mais vous avez vous-même retravaillé le texte, et puis donc vous en donnez un commentaire, verset après verset, en fait, tout en ayant bien sûr une vue d'ensemble. Et l'éditeur a eu la bonne idée de nous faire des petits encadrés qui servent comme autant de points d'appui pour notre lecture. Voilà, donc c'est un beau chemin, pas simplement de carême, je crois qu'on peut aller au-delà, parce qu'on est en temps de carême, mais on sera aussi vers le temps de, très bientôt, le temps de Pâques. Je vous retrouve, Père Plé, dans une prochaine émission pour approfondir ce chemin de l'Apocalypse. Et je vous remercie de nous avoir aidés à contempler ce Père qui nous aime tant et dont Jean nous montre que nous sommes conviés à le rencontrer en nous convertissant et en nous recevant de lui. Merci.
Merci à vous.